Eh ben ok, c'est mardi là, et puis il est 13h je pense, et on est au Vinatier, avec les gens du Vinatier, à la permanence, sur le piquet de grève comme on dit, et donc on va faire une petite entrevue sur, avec les gens du Vinatier par rapport à ce qu'ils vivent, comment ils voient cette lutte. Ben voilà, quand est-ce que ça a commencé la mobilisation chez vous? À peu près.
La vraie mobilisation a commencé le 24 juin, donc dans le mouvement, donc 24 juin, 7 septembre, donc voilà. Mais elle avait démarré bien avant, donc au mois de mai, donc et même avril, donc lors des appels nationaux, où il y avait eu déjà des mobilisations qui étaient intéressantes de l'hôpital, mais même un peu plus générale, voilà.
D'accord.
Et ça a tout de suite pris chez vous?
Ben, ça a tout de suite pris en termes de manifestations traditionnelles, à l'appel des confédérations, oui, ça a pris assez rapidement. Par contre, ce que l'on regrette beaucoup, c'est entre ces manifestations interprofessionnelles et intersyndicales, d'appel national, eh bien, c'est l'animation qu'il y a eu sur notre établissement qui n'a pas été à la hauteur, en fait. Donc voilà, on a tenté de faire un piquet de grève. Il a duré 2 jours, puis on s'est rendu compte que c'était inutile. Donc on l'a adapté à un rendez-vous journalier, de rencontres, témoignages, informations, etc. Qui a eu quelques jours de bonheur, on va le dire, et puis qui bon, aujourd'hui est un peu faiblard, en fait, depuis hier est un peu faiblard, depuis lundi est un peu faiblard. Donc, on tente de lui remettre un petit coup de pêche demain avec la venue des étudiants, y compris peut-être de collègues de la SNCF, etc., mais qui sont aussi dans leurs propres difficultés. Et nous, le but, c'est d'intégrer le maximum de salariés dans la lutte. Alors, on sait qu'on est soutenu, on sait que de toute façon, on a un potentiel de résistance et d'accointance sur l'hôpital qui est indéniable. Par exemple, on a fait une collecte ce matin. On a récupéré plus de 700 euros. Bon, voilà, on pourrait récupérer beaucoup plus, hein, parce qu'il y a quand même, à la journée, il y a à peu près 1 000, 1 200 salariés qui travaillent. Mais en fait, on a récupéré 700 euros. Donc, ce n'est pas rien.
Ça, c'est un truc, je dirais, qui est un peu original à cette lutte-là, c'est qu'il y a des caisses de solidarité qui sont construites en fait tout de suite. Comment
vous le sentez ce truc-là? Parce que enfin, c'est quand même assez
surprenant que sur les autres gros mouvements, il n'y ait pas eu cet engouement de ces caisses noires, comme on disait à l'époque, ça.
Surtout des caisses de solidarité en direction de salariés qui sont présentés par le gouvernement comme des empêcheurs de tourner en rond, des fouteurs de merde, entre autres les salariés de Total, des raffineries et puis ceux de la SNCF. Et les gens donnent. On a participé vendredi dernier à un péage à Vienne, donc en 1 heure et demie, c'est 1 300, c'est 5 600 euros qui ont été collectés.
Ah, quand même, ouais.
5 600 euros. Donc on voit bien que là, c'est concret, la population, un
Il n'y a pas
soutien de la population,
d'impopularité.
il n'y a pas d'impopularité. C'est du concret.
Ouais, mais un truc à
D'ailleurs, à
dire.
propos de l'impopularité, ceci, c'est pareil, c'est des conneries. C'est les conneries des médias. Hein. On a fait donc vendredi dernier, on a agité les banderoles et les drapeaux sur l'autoroute. Tout le monde nous klaxonnait pour nous soutenir. Il y avait des points levés, notamment chez les routiers, les motards, hein, puisqu'ils sont, il y a, les motards aussi font un mouvement actuellement. Donc il y a une grande solidarité de la population. Quand on passe dans la rue, les gens applaudissent. Je pense que voilà, les médias essayent de nous isoler, de nous diviser. Voilà, donc je pense que quelque part, on a gagné la bataille de l'opinion publique, moi je pense. On l'a gagné, hein. On n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné la bataille de l'opinion publique.
D'accord. Pourquoi une telle mobilisation sur ce truc-là, quoi, sur les retraites, tout ça, qu'est-ce qui fait selon vous qu'en fait vraiment les gens ils ont manifesté aussi longtemps sur des grosses manifestations? Le mouvement a quand même pris de l'ampleur un petit peu toutes les semaines sur les différents rendez-vous qui étaient donnés. Et est-ce que c'est un truc commun et les gens, du coup, ils n'ont pas fait cette scission public-privé, machin et compagnie? Comment vous ressentez ça?
Ah bah, le vrai truc, comme l'a dit Dominique, hein, c'est la bataille des idées qui a été gagnée, et entre autres la bataille des idées sur la question du partage des richesses, hein, dans ce pays. Je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, plus personne dans cet établissement comme dans un autre établissement ne peut croire que ce que nous disent le patronat, ce que nous dit le gouvernement est vrai. C'est-à-dire qu'il y a du fric dans ce pays, il y a d'énormes richesses qui sont produites et elles ne sont pas réparties justement à la population. Et quand nous on parle de la population, c'est la population salariée, la population étudiante et la population retraitée. Donc je crois qu'il faut joindre à cette question de la revendication sur les retraites, la question de l'augmentation générale des salaires, des pensions, etc., des allocations d'études, et la question de l'interdiction des licenciements, donc de l'emploi et de l'interdiction des licenciements. Et pour nous, ça a été essentiel, c'est ce qu'on reprend dans les manifestations. Voilà. Et on rappelle toujours qu'on dit que les caisses sont vides, les caisses collectives sont vides, mais que rien que pour l'année 2009, le patronat n'a pas versé 67 milliards de cotisations à l'assurance maladie, aux caisses de retraite, vieillesse, etc. 67 milliards, c'est trois fois le trou de la Sécu. Donc on voit bien que l'argent, on sait où il est, il ne faut pas le prendre dans les poches des salariés ou les faire travailler plus longtemps, il faut les prendre dans ceux qui ne payent pas. Si c'est un petit artisan qui ne paye pas ses cotisations, eh bien il est expulsé. Pourquoi des spéculateurs, des gros bourgeois, des capitalistes n'ont pas le même sort alors que la loi est pour tout le monde? Voilà. Nous on revendique, c'est la question du partage des richesses qui doit être rediscutée dans ce pays.
Une chose à rajouter sur ça? Eh ben voilà, sinon ici on est au Vinatier, la psychiatrie c'est une thématique, enfin c'est dur quoi. Et vous êtes un peu les initiateurs de trucs qui s'appelait la nuit de la résistance, c'est ça, il n'y a pas longtemps, où enfin moi-même par exemple j'ai appris vachement de choses sur notamment le nouvel hôpital qui est juste derrière moi il me semble. Et du coup ben voilà, la pénibilité du travail, les retraites, ça c'est un truc je pense qui sur lequel vous avez un peu vos idées. Est-ce que vous pouvez me raconter en fait comment ça se passe ici maintenant au Vinatier, vos conditions de travail, voilà quoi, et qu'est-ce que vous attendez un peu du futur?
Bah, je dirais que les conditions de travail depuis ne se sont pas améliorées, hein. C'est toujours dans les services, c'est toujours de plus en plus difficile, hein. On est toujours confronté toujours au même problème fondamental d'effectifs, on est toujours en sous-nombre, on nous demande de revenir sur nos repos, de changer, donc un coup on finit à 22h, le lendemain matin il faut qu'on recommence à 6h30, il faut tout le temps qu'on change d'équipe. Les patients, c'est toujours la même politique de turnover avec au bout de 3 semaines, qu'il aille bien ou qu'il aille mal, il faut qu'il sorte parce qu'il faut que les lits tournent pour pouvoir faire entrer de l'argent parce qu'on est financé en fonction du turnover des lits. Donc je pense que nous, on ne s'y retrouve pas. On soigne de moins en moins bien les gens. Uh-huh. On les renvoie de plus en plus vers la précarité parce qu'on n'a plus le temps justement de mettre en place avec eux des projets. Des projets sociaux pour leur trouver des foyers décents ou dans lesquels ils seront bien. Non, c'est excuse-moi mon grand, là on a besoin de place, donc tu retournes dans la rue. Donc je pense que c'est des trucs qu'on vit de plus en plus dur au niveau des équipes. Il nous arrive même qu'on nous demande, enfin que nos médecins-chefs nous demandent de foutre des patients dehors. C'est par exemple dire oui bah le patient non, vous l'amenez au portail et puis s'il veut pas vous appelez le service de sécurité, donc c'est de l'hôpital qui va le foutre à la porte. Et je pense que c'est un truc dont les soignants ne se faisaient pas cette idée en rentrant en tout cas dans le service public hospitalier, ouais. Où quand même la base de notre fonction c'est quand même de servir les gens, c'est de les soigner dans de bonnes conditions. Et je pense que au-delà des difficultés de travail, des conditions de travail qui sont de plus en plus dures, il y a aussi toute cette notion qui plombe le moral des gens. On a l'impression d'être des matons, de fliquer. Enfin, vu quand on est que deux soignants pour 25 patients et qu'on est toujours obligé faire que flic, quoi. Fliquer, on n'a plus le temps de faire les entretiens. Donc du coup, les gens, ils vont pas bien, ils brassent et ça se passe mal, quoi.
Moi, je voulais rajouter aussi que le travailleur en psychiatrie, c'est un accompagnement au long cours psychique de patients, parce qu'en fait, on ne guérit pas d'une maladie mentale comme la schizophrénie. Par contre, on a besoin beaucoup d'étayage, de présence, de relations humaines, d'humanité. Les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, ils en ont jusqu'à la mort, quoi. Et donc là, on est dans un système qui fait, on va te faire une picouse, tu vas pas être méchant, tu vas pas délirer dans la rue, maintenant tu peux retourner dans la rue. Or, ce n'est pas ça le travail de psychiatrie, c'est vraiment l'accompagnement de quelqu'un qui psychiquement est continuellement en souffrance. Et donc, ça, c'est absolument. C'est des choses qu'on ne peut pas faire maintenant sur le Vinatier. Et je pense en psychiatrie en général en France.
Des choses à rajouter?
Je voulais dire aussi, je suis infirmier, donc Dominique, on détruit aussi le secteur. C'est-à-dire qu'on détruit le suivi des patients au long cours. Et souvent, on attend des rechutes. On attend des rechutes pour pouvoir réhospitaliser le patient. C'est-à-dire que le patient n'est plus suivi comme il était suivi avant, ce qu'on appelle en ambulatoire. Et pour le réhospitaliser, bah, les familles souvent attendent une rechute. Hein, voilà. Tant qu'il n'y a pas de rechute, le patient n'est pas réhospitalisé, ce qui donne lieu à des drames souvent familiaux, personnels, pour les familles, pour tout le monde. Voilà, c'est pour ça aussi que beaucoup de patients se retrouvent donc à l'accueil de l'hôpital qui s'appelle l'UMA. Hein, ils se retrouvent en crise avec donc contenu, hein, parce qu'on a attendu trop longtemps. Hein, on a attendu trop longtemps avant de les réhospitaliser. Voilà, donc on est arrivé à une situation effectivement où les patients souffrent de cette situation, les familles aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les patients, on a vu, hein, les patients, ils ont vu notre mouvement avec sympathie. Hein, ils sont venus nous voir, beaucoup de patients sont venus nous voir, donc à la permanence de lutte, parce qu'ils comprennent que c'est aussi leur intérêt.
Oui, tiens, qu'est-ce qu'ils disent ?
Oui, les patients nous demandent des nouvelles, ils nous soutiennent. On en a vu pas mal qui sont venus, hein, donc nous voir, et beaucoup donc demandent des nouvelles. Souvent prennent les journaux, lisent les comptes rendus des manifs dans le Progrès, même si le Progrès, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est le journal qui est distribué dans le service. Donc voilà, il n'y a pas d'autres journaux. Mais ils s'intéressent beaucoup, je pense, au mouvement, les patients.
Hein. Ils sont venus vous voir, le Progrès ?
Le Progrès, ils ne sont pas venus nous voir. Mais c'est vrai que le Progrès, on ne peut pas dire que ce soit un journal qui nous a beaucoup aidés. Au contraire, ils nous ont plutôt enfoncés, je dirais. Quand on voit les derniers articles qu'ils ont faits, moi, je ne félicite pas trop le Progrès. Quoi. Voilà, c'est assez mensonger ce qu'ils racontent. Et voilà, ils disent n'importe quoi. Donc moi, je ne fais aucune confiance au Progrès. Et je regrette que le Progrès soit le seul journal qui puisse être lu par les patients. J'aurais aimé, ça d'ailleurs on en a parlé dans mon service, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres journaux, notamment l'Humanité ou Libération, etc., qui puissent être lus par les patients. Parce que être élevé au lait maternel du Progrès, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quoi. Voilà.
Ok, merci.
Je voulais juste dire qu'effectivement, donc le manque d'effectifs, c'est effectivement la question de la flexibilité, mobilité, juste au sein du service. C'est-à-dire que si on part du principe que la psychiatrie, c'est accompagner au long cours quelqu'un qui est en difficulté psychique, ça veut dire que ça amène... Enfin, normalement, on a le patient reconnaît une équipe. Souvent, rien que le fait d'arriver dans son secteur, déjà, ça fait tomber l'angoisse, il reconnaît certaines têtes, etc. Or là, de plus en plus, moi sur 4 jours, je vais travailler 4 jours, je vais aller une fois dans un service, une fois dans l'autre, une fois dans un autre, une fois. Donc là, on est vraiment en pleine flexibilité. Donc du coup, on est là juste pour faire des choses de l'ordre de la tâche. Et voilà, donc c'est-à-dire que non seulement pour nous, c'est extrêmement épuisant, pour le patient, il ne s'y reconnaît pas. Et voilà, donc je pense qu'aussi, ça c'est quelque chose encore du travail de psychiatrie qui est alors, vraiment pas du tout tenu en compte. Enfin, voilà, qui tombe. Voilà.
Et cette question de flexibilité, justement, depuis la fermeture de plus de 120 lits, il me semble, sur l'hôpital, c'est les patients aussi qui la subissent. Par exemple, avant d'atteindre leur service qu'ils connaissent très bien, ils vont passer par 2, 3, voire 3 autres services où ils ne connaissent pas l'équipe. À chaque fois, il faut qu'ils changent de repère, il faut qu'ils re-rencontrent les gens, et puis ils commencent à aller mieux, puis pouf, ils rechangent de service jusqu'à atteindre enfin leur service de secteur. Et ça, c'est un truc... qui est assez récent, franchement. Ça fait vraiment un an où les malades, ils le subissent continuellement et ils le disent. Les patients nous le disent, j'en ai marre. J'étais là avant, je commence à aller mieux, boum, je rechange, puis je reviens ici, puis enfin, ils comprennent plus rien. Ils comprennent vraiment plus rien ce qui se passe.
Oui, d'une manière générale, en psychiatrie, hein, c'est le manque de moyens, mais ça conditionne la prévention qui n'est pas faite à sa juste mesure, c'est-à-dire que pour avoir une première rencontre donc dans un CMP, etc., il faut souvent attendre 3-4 mois. Donc la question de la prévention, elle est primordiale, donc ça nécessite des moyens dans les structures extramuroses, des moyens de consultation, etc., qui n'existent pas aujourd'hui. La question du suivi après le soin, après l'hospitalisation, est aussi primordiale. Il arrive que des patients ne revoient aucun soignant avant un mois et plus après être sortis de l'hôpital. Donc la question du suivi est aussi primordiale. Il y a la question de la fermeture de lits qui se pose aujourd'hui, et les pouvoirs publics ne doivent pas fermer les yeux, ne doivent plus fermer les yeux. Hein. C'est-à-dire que les lits, on ne doit plus fermer des lits, on doit en rouvrir. Et ça ne veut pas dire enfermer les patients, ça veut dire que la crise doit pouvoir être traitée au moment opportun et à la demande des professionnels. Aujourd'hui, il y a des périodes de crise qui sont des patients qui arrivent à l'UMA et qui ensuite sont complètement désectorisés, alors à l'intérieur de l'hôpital, mais des fois à l'intérieur d'autres établissements, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de lits sur l'hôpital ou sur Saint-Jean-de-Dieu ou sur Saint-Cyr, etc. Et ça, c'est complètement anormal. Donc voilà, et ça chahute le patient, ça le perturbe complètement, les équipes ne sont pas satisfaites du travail qu'elles font. C'est-à-dire que pour que véritablement la psychiatrie soit reconnue, il faut que les professionnels aient l'impression d'avoir une utilité et de correspondre, de répondre à un besoin, de répondre à un besoin du patient. Aujourd'hui, ils ont surtout l'impression de faire du chiffre pour qu'il y ait des comptes qui soient faits, et que les directions, dans leur rapport annuel, puissent marquer tant d'hospitalisations, tant de ceci, tant de cela. Et la psychiatrie, c'est pas ça, la copine l'a bien dit, c'est pas ça, c'est un soin long cours, c'est une insuivie, c'est une prévention, c'est un accompagnement des familles, etc., etc.
Et non à la privatisation de la santé.
Voilà.
Merci. Et du coup,
ouais. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, aussi, il faut parler à deux mots sur la réforme de la loi de 1990 aussi, qui va être donc changé, et le rôle du médecin sera amoindri par rapport au rôle du préfet, qui aura donc plus de pouvoir donc dans la décision d'hospitaliser un patient. Voilà, donc les médecins, voilà, donc aura beaucoup plus de le rôle du préfet et du directeur d'hôpital sera agrandi par rapport au rôle du médecin. Et donc les familles auront moins de possibilités donc de dire leurs mots par rapport à l'hospitalisation du patient.
Et les soignants aussi.
Voilà, voilà. Et puis bien sûr, deux mots aussi sur le fait que ces derniers temps, tout l'argent de la psychiatrie a été donc versé pour les EHSA et les UMD. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a eu très peu d'argent pour donc les structures extra-hospitalières et pour la psychiatrie, je dirais, de secteur. Quoi.
Budget prioritaire.
Voilà, donc effectivement, avec bien sûr derrière donc des entreprises comme Bouygues qui se frottent les mains parce que ça leur fait construire plein de nouveaux bâtiments, des contrats juteux. Et puis bien sûr, aussi souligner, une autre chose qu'il faut souligner, c'est l'importance maintenant des labos dans la psychiatrie. Quoi. Les labos sont tout puissants. Ils sont tout puissants, ils ont même. Ils créent même à la limite des troubles qui n'existaient pas avant, comme par exemple certains troubles de l'enfance, où on donne maintenant des médicaments aux enfants qu'on appelle suractifs, hyperactifs. Voilà, donc maintenant il y a de plus en plus de médicaments, etc., etc., et de moins en moins de psychothérapie. Quoi.
D'accompagnement, quoi.
Voilà, d'accompagnement, de psychothérapie. Voilà, la parole est de moins en moins prise en compte. Ce qu'on voit maintenant, surtout maintenant, c'est la psychiatrie biologique qui se développe de plus en plus. Voilà, avec les labos qui poussent derrière. Voilà,
donc, le marché. Hein.
Voilà, le marché des labos. Ouais. Voilà.
Pour revenir un peu sur les retraites, je sais pas, je vais terminer peut-être par un petit tour de micro de chacun de vous. Est-ce que d'une manière concise, vous pourrez. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait pour vous la retraite, quoi, comme dimension, comme projet de société en fait, est-ce que pour vous c'est juste un truc comme ça qui tombe à la fin de ces annuités, ou alors c'est vraiment, il y a vraiment une dimension de civilisation, quoi, derrière, je m'exprime un peu mal, quoi, mais
Moi c'est clair, la retraite par répartition, c'est un des acquis donc de la libération, c'est-à-dire que c'est basé sur la solidarité des générations. Donc c'est une solidarité, c'est le principe de la solidarité, comme les mutuelles à une certaine époque. Donc c'est le principe de la solidarité qui n'a pas été donné comme ça par l'État et le patronat, mais qui a été acquis par des luttes très dures à la libération. Et puis surtout, c'est donc le produit des idées du Conseil national de la Résistance. Donc de ceux qui avaient combattu le nazisme, etc. Donc voilà, c'est la retraite par répartition, on y est attaché. Hein, alors bien sûr. Alors deuxième chose aussi, c'est que pour moi la retraite, ça évoque quoi? Ça évoque la vie, quoi, tout simplement. C'est que je pense que quand on a travaillé 40 ans, il est le temps de penser un peu à soi, hein, et puis vivre, hein, vivre sa vie, hein, et pas nous pas se lever. Moi, je me vois pas à 67 ans me lever à 4h30 du matin pour aller bosser, quoi. Voilà. Donc c'est profiter de la vie, s'occuper de sa famille, de aller se balader à la campagne, vivre, quoi. Voilà. Vivre enfin. Voilà. Et pas passer sa retraite à l'hôpital parce qu'on sera trop vieux, quoi. Donc moi, ma retraite, j'ai envie de la vivre.
Tu peux, hein, donner un autre avis?
Oui, bien sûr. Alors j'en ai.
La retraite par répartition, c'est pas... Bien sûr, on la défend face aux attaques, mais c'est pas le pied. Hein. L'idéal, c'est que les patrons, ils payent la retraite des salariés qu'ils ont exploité pendant toute leur vie. Puis la retraite par répartition, c'est nous qui payons la retraite des vieux. Enfin, je rappelle ça que... Au début du siècle dernier, la CGT le demandait. Elle était, c'était pas ça sa revendication, c'était pas la retraite par répartition. C'était que les patrons payent la retraite des vieux ouvriers.
Ouais. Jean-Noël a raison, je crois qu'il y a eu malentendu. Hein. La retraite par répartition, c'est pas le pied, je suis d'accord avec Jean-Noël. Mais par rapport à la retraite par capitalisation, ou ce qui se passe par exemple en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est quand même un acquis.
C'est un truc à défendre.
Voilà, c'est quelque chose à défendre, même si effectivement, ça serait au patron de payer la retraite. Voilà, je suis d'accord.
Moi, la retraite, pour moi, ça signifie pouvoir vieillir en toute dignité. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que c'est permettre aux personnes qui ont travaillé toute leur vie, et beaucoup trop travaillé, hein, parce qu'il vaudrait mieux travailler tous et travailler moins, et bien de vivre dignement jusqu'à la fin de ses jours, et donc d'avoir des loisirs qui permettent de terminer ses jours de la meilleure façon qui soit. Je crois que c'est ça, et c'est ce que recherchent beaucoup de gens, c'est-à-dire que le métier, le boulot, on a parlé des conditions de travail, est tellement dur. Alors il était dur il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, bien sûr il était dur. Là il est devenu difficile psychologiquement. Les gens ne supportent plus d'être au travail et tentent de s'échapper à tout prix du travail, tout simplement parce que les conditions de travail sont devenues complètement cons. Elles sont dures, elles peuvent être dures physiquement, mais surtout dures psychologiquement. Et les salariés ont vraiment l'impression de compter pour du beurre, d'être du bétail en fait. Et ça, d'une manière générale, c'est ce qu'on entend, hein, c'est-à-dire qu'on compte pas, on est des bêtes à production. Voilà. Moi, pour moi, c'est la retraite, en fait, ça fait partie de la vie. Et si on arrive à gagner des conditions de travail décentes, de vraies conditions de travail qui permettent donc à chacun de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, et donc pour nous à l'hôpital de donner des soins de qualité, par exemple, eh bien la vieillesse et la retraite, eh bien elle suivra le même chemin. Mais comme les conditions de travail sont dramatiques, eh bien on est en train de nous faire une vieillesse qui va être dramatique, avec des gens qui vont être sous l'hôpital, il faut le dire. Il y a une infirmière qui est venue travailler en intérim, elle avait plus de 70 ans. Plus de 70 ans sur l'hôpital du Vinaquier, qui elle est venue travailler en intérim. Donc on voit, c'est ce qu'on veut pour demain, c'est qu'il y en ait des dizaines comme ça dans cette situation. Non ? Je crois que...
Voilà, la jeunesse.
La jeunesse, moi, je rejoins... ça va faire un peu la redite de ce qu'ont pu dire les copains. Vraiment, pour moi, la retraite, comme je l'imagine, c'est surtout ce qu'a dit le copain d'avant, c'est vivre. C'est vraiment pouvoir vivre ma vie, pouvoir échapper au salariat. C'est le moment, c'est bon, j'ai assez donné au salariat, maintenant j'arrête. Et c'est vrai que ça doit passer par justement une vraie répartition du travail. Tant qu'on n'y arrivera pas, là le copain disait justement, il y a une dame de 70 ans, de plus de 70 ans qui est venue bosser sur le Vinatier, mais n'empêche que c'est toujours du chômage en plus. Quand on va augmenter le temps de travail, ça va être encore des chômeurs qui vont augmenter, du coup ça va être un vrai cercle vicieux. Et moi, je vois pas ma vie dans la société comme ça. Je vois ma vie à essayer de travailler le moins possible, gagner le plus possible et pouvoir le vivre le plus dignement. Et justement, le jour où ma retraite arrivera, de plus rien foutre.
Ouais. Moi, je suis pas pour le super travail du salariat, c'est-à-dire que la question du salariat, pour moi aussi, c'est c'est quelque chose de l'ordre du social ou de la société. C'est-à-dire que moi, je suis pas contre le travail, mais je suis pas à donf pour travailler jusqu'à 70 balais. Donc, je pense qu'on est aussi suffisamment nombreux pour, socialement, chacun travailler, prendre plaisir aussi au travail qu'on fait. mais vraiment dans la question de répartir des idées, de comment s'organiser socialement. Et effectivement, je rejoins les collègues par rapport à la question de la retraite, c'est-à-dire moi je travaillerais bien 30 heures par semaine et puis être à la retraite relativement tôt et puis pouvoir continuer à vivre ma vie, mais aussi à lutter et à réfléchir à ma société, quoi.
Et on vient tout au débat premier, mais qui alimentait les débats de nos aïeux, en fait, qui luttaient. Hein. C'est-à-dire que le modernisme, l'évolution des nouvelles technologies, ça devait soulager l'homme du travail. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et on marche à l'envers. On marche complètement à l'envers.
Il faut tout réorganiser.
Voilà. On marche à l'envers.
On détruit l'ordre.
Il y a du boulot. Quelque chose à rajouter encore ?
Vive la lutte.
Vive la lutte. Et puis, donc, moi, je revendique le droit à la paresse.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai une petite mise au point aussi, parce que tout à l'heure, je parlais du Conseil national de la résistance. C'est loin d'être le pied, hein, puisque j'ai... Voilà. Non, ce n'est pas une question de me rattraper, mais que ça soit bien clair. Moi, je ne défends pas les positions du Conseil national de la résistance. Hein, Voilà, c'était un acquis. C'est mieux la répartition par rapport à la capitalisation, mais l'idéal, ça serait que ce soit les patrons qui payent les retraites. Et même l'idéal en tout, ça serait qu'on ne bosse plus du tout. Voilà. On arrête de bosser. Voilà.
Voilà. Parole de personnel soignant à l'hôpital du Minatier le mardi.